Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand le doute sert la désinformation. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir. La désinformation était au cœur de plusieurs discussions au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ, qui se tenait à la mi-novembre 2024 à Trois-Rivières. Le journalisme de qualité y a été présenté comme un rempart contre ce fléau. Cet événement annuel réunit des centaines de journalistes d'un peu partout dans la province, de même que des acteurs de la société civile, pour discuter d'enjeux qui touchent leur profession. L'un des panels portait sur la stratégie du doute. Utilisée par divers groupes d'intérêt depuis de nombreuses années, elle consiste à remettre en question des faits scientifiques pourtant avérés et ainsi à semer la confusion dans les esprits. Elle a été développée par les compagnies de tabac dans les années 1950 et 1960 par leurs firmes de relations publiques. À l'époque où le consensus scientifique s'était développé pour dire que le tabac augmentait les risques de cancer, ça consistait à dire « On n'est pas encore sûr, il y a des pour, il y a des contre, attendons avant de légiférer », a expliqué le rédacteur en chef de l'agence Science Presse, Pascal Lapointe. Ces compagnies ont même embauché des scientifiques pour défendre leur position, a rappelé M. Lapointe. Le but n'était pas de convaincre que l'autre groupe avait tort. Le but était de créer l'illusion qu'il subsistait un débat, a-t-il ajouté. La stratégie du doute peut aussi consister à répandre tellement de mensonges qu'une partie du public se dit qu'il ne peut pas distinguer le vrai du faux, qu'il ne peut pas trancher, a précisé M. Lapointe. La conséquence, c'est qu'un grand nombre de personnes décrochent de l'information. Selon lui, la campagne de Donald Trump en 2016 avait beaucoup de points communs avec ses stratégies. Un autre panéliste, le journaliste de la presse Tristan Péloquin, a expliqué comment des partisans de la mouvance conspirationniste QAnon ont contribué à créer des théories mettant en doute le résultat des élections américaines de 2020. D'après Jean-François Clich, journaliste scientifique au quotidien Le Soleil, cette stratégie est aussi utilisée par des politiciens et des groupes de citoyens qui s'opposent à des projets. Ils n'ont pas besoin de faire la preuve que tel projet ou telle chose est dangereux pour la santé. Ils ont juste besoin de semer un doute, a-t-il dit, citant en exemple des opposants qui s'inquiètent du niveau de bruit généré par le futur tramway de Québec. Un piège pour les journalistes. Les journalistes eux-mêmes peuvent se faire avoir en donnant une place importante à ces propos dans leurs articles. Quand on a une bonne trame narrative qui va générer des clics, on va s'engouffrer dedans, a observé M. Clich. Il a cité l'affaire Bruce Power, une compagnie d'énergie nucléaire ontarienne qui voulait transporter en 2011 des générateurs de vapeur usagés sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'en Suède, ce qui avait suscité une levée de boucliers. Or, M. Clich estime que la couverture médiatique de l'époque, en surface, n'a pas permis de bien expliquer les faits scientifiques derrière ce dossier. En analysant les 75 articles parus à ce sujet, il a constaté que les personnes les plus citées étaient des politiciens, notamment des maires opposés à l'opération. L'entreprise et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui affirmaient que les risques pour la santé et la sécurité étaient infimes, étaient aussi souvent cités. Toutefois, un expert indépendant n'a été cité qu'une seule fois pour dire que les craintes n'étaient pas fondées. La commission avait fait un scénario du pire et c'était physiquement impossible que ça vire à la catastrophe, a indiqué le panéliste. Les journalistes doivent aussi faire attention de ne pas mettre toutes les études et tous les points de vue de scientifiques sur un pied d'égalité. En effet, certaines revues qualifiées de prédatrices publient des études de chercheurs en échange de frais de publication en se souciant peu de la qualité scientifique, signale le Fonds de recherche du Québec sur son site Web. Il faut donc savoir les reconnaître. s'ils citent des sources pas fiables, les médias perdent de la confiance du public, a prévenu M. Cliche. A contrario, une partie des gens qui doutent sont perméables aux bons arguments, estime Pascal Lapointe, d'où l'importance de leur présenter des faits documentés. Des solutions contre les géants du web. La FPJQ croit qu'il faut freiner l'exode des revenus publicitaires vers les géants du numérique comme Facebook, Twitter et TikTok, où la désinformation pullule. Si ces moyens sont plutôt dirigés vers les médias, les journalistes pourront d'autant plus faire contrepoids. C'est pourquoi les membres demandent au gouvernement fédéral et provincial de mettre fin aux exemptions fiscales que peuvent obtenir les entreprises lorsqu'elles achètent de la publicité auprès de ces entreprises étrangères. D'autres organisations, comme la Fédération nationale des communications et de la culture, soutiennent cette idée. La FPJQ a aussi formé un comité de travail avec la Société québécoise des professionnels en relations publiques pour trouver des pistes de solutions à la désinformation et à la perte de confiance dans les journalistes. La FPJQ veut fédérer le plus grand nombre d'acteurs qui croient en la mission des journalistes et des médias, a établi le président de l'association, Éric-Pierre Champagne. C'était « Quand le doute sert la désinformation », un texte de Roxane Léhouzon, paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir.
Haïna, l'enfer des migrants haïtiens en République dominicaine. Un texte de Wetzer Pierre-Saint et Fenel Pélissier, paru le 29 octobre 2024 dans Haïbo Post. Haïna, connu comme le plus grand centre de rétention de migrants en situation irrégulière en République dominicaine, fait l'objet d'une attention soutenue depuis l'annonce de déportations massives de la République dominicaine en début d'octobre. Le complexe, ou centre de vacances de Haïna, se retrouve dans la ville éponyme, située à San Cristobal, au sud de la République dominicaine. Depuis des années, les fonctionnaires responsables de l'espace sont critiqués pour des cas de violation de droits humains documentés par des organisations du pays voisin, dont l'Observatoire des droits humains. Deux avocats révèlent à Haïbo Post le fonctionnement de ce centre de rétention, construit en 1977 sous le régime du président dominicain Joaquim Balaguer. Ces professionnels défendent le droit des migrants en République dominicaine et ont l'habitude de visiter les lieux pour assister des personnes retenues. Haïna reçoit les migrants en attente d'expulsion ou de vérification de documents. Les Dominicains déportés de l'étranger y sont aussi accueillis. Le gouvernement dominicain veut déporter 10 000 migrants par semaine. Mais la capacité d'accueil d'Haïna est dépassée et les conditions de rétention y sont inhumaines, déplore à Haïbo Post Vladimir Jojo Fleurimé, un avocat haïtien évoluant en terre voisine depuis 2012. Le responsable dénonce le manque de nourriture, la promiscuité, l'insalubrité et les délais d'accès à l'assistance juridique pour les personnes détenues. Une fois par mois, l'organisation Promotion d'appui aux immigrants haïtiens et dominicains d'ascendance haïtienne, PAIDA, dont Maître Fleurimé est le coordonnateur, apporte un soutien humanitaire aux Haïtiens retenus par la migration. Des gens passent des jours à Haïna sans pouvoir obtenir l'assistance de leur famille ou de leurs avocats, explique Fleurimé à Haïbo Post. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre de personnes détenues dans ce centre. Des étrangers arrêtés dans l'est du pays, à Santo Domingo, à San Cristobal, Bani, San Pedro de Macorís et d'autres villes sont envoyés dans ce centre, selon Carlos Sanchez Diaz, avocat dominicain et défenseur des droits humains installé dans la ville de Haïna. D'après Sanchez Diaz, qui travaille depuis plus de 20 ans dans cette ville, le complexe, mesurant 25 000 à 30 000 mètres carrés, comprend aujourd'hui deux centres d'études, la Puera Rijos et l'Institut Polytechnique d'Aina, IPHA. Ces institutions accueillent ensemble plus de 500 étudiants. Le centre de rétention de Aina se retrouve en bordure de la côte caribéenne, jouxtant le parc industriel et une raffinerie de pétrole, Refidomsa. Initialement conçu comme un lieu de villégiature pour des enseignants et leurs familles, l'espace s'est transformé au fil du temps. En 1997, la Direction générale de la migration dominicaine aménage une partie des lieux pour en faire un centre de rétention et de rapatriement des migrants en situation irrégulière. Deux pavillons ont été construits à cet effet, un pour les hommes, l'autre pour les femmes, ainsi qu'un espace pour les enfants qui sont retenus avec leurs parents. D'autres centres du pays, comme celui de Dajabón et de Santiago, accueillent également des migrants en attente de déportation. Maître Fleurimé évoque des préoccupations quant à l'exiguïté des pavillons du centre de Aina face à l'augmentation du nombre de migrants arrêtés par la migration. Ce qui, selon le responsable, est très préoccupant. L'infrastructure des pavillons n'est pas adaptée pour accueillir et retenir plus de 400 personnes, selon Sanchez Diaz. Pourtant, poursuit-il, parfois on y garde un millier de personnes pendant plusieurs jours. L'avocat dénonce la passivité des autorités dominicaines face à cette situation, en dépit des multiples appels lancés par les organisations et d'autres personnalités dans le pays. Il n'existe pas de protocole de santé ni de prévention des maladies, ce qui constitue des conditions minimales pour garantir la dignité humaine, confie Sanchez Diaz, interviewé par Aibo Post. De l'arrestation à la déportation, en passant par la rétention au centre, les conditions de respect des droits de l'homme ne sont pas respectées, selon les deux défenseurs des droits humains. Des camions, prévus pour transporter 50 personnes, en transportent une centaine, y compris des enfants et des femmes enceintes, poursuit Maître Sanchez Diaz. Les Haïtiens, au nombre de 700 000 en République dominicaine selon des statistiques officielles, sont particulièrement touchés par ces mesures migratoires. Retenu à Aina en 2023, l'écrivain haïtien Jacques Valcourt se rappelle la surpopulation de l'espace. L'homme a été arrêté par la migration dominicaine au moment où il ne disposait pas de ses pièces d'identité. Il sera relâché quelques heures plus tard, dit-il à Aibo Post, grâce à ses relations. Le processus de vérification des documents est très lent, témoigne Valcourt. Vous pouvez avoir des documents légaux et passer plusieurs jours en attente. Vous écoutez Aina, l'enfer des migrants haïtiens en République dominicaine. Un texte de Wetzer Pierre-Saint et Fenel Pélissier, paru le 29 octobre 2024 dans Aibo Post. La situation n'est pas la même partout, selon l'écrivain. Par exemple, le centre de rétention de Santiago offre de meilleurs traitements aux migrants, selon Valcourt, dont le beau-père y a été détenu. Le caractère discriminatoire des interpellations et les multiples instances de violence contre les personnes noires mettent en lumière les ravages du racisme institutionnel en République dominicaine. Des migrants sont parfois arrêtés en possession de leurs papiers d'identité en règle. L'avocat Fleurimé déclare avoir personnellement assisté ce mois-ci un migrant haïtien muni de ses pièces d'identité arrêté par les agents de la migration. Les conditions de détention dans le système carcéral dominicain préoccupent à l'échelle internationale. Selon le groupe de recherche Global Detention Project, bien que la loi générale sur la migration du pays garantisse une protection contre la détention pour les femmes enceintes, les mères allaitantes, les personnes âgées et les enfants, la réalité est tout autre. La surpopulation et la corruption sont parmi les plus grands défis du système carcéral dominicain. L'environnement d'Aina demeure également une préoccupation. En 2006, Bajos de Haina, ou ville de Haina, a été classée parmi les 10 endroits les plus pollués au monde, lui valant le surnom de « Tchernobyl dominicain », en référence à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, symbole de contamination et de crise environnementale en Ukraine. Cette pollution est l'œuvre d'une ancienne usine de recyclage de batteries appelée Metaloxa, ayant cessé ses activités à la fin des années 1990. La mauvaise gestion des déchets toxiques a laissé des niveaux de plomb extrêmement élevés dans les sols et l'air, exposant les habitants à de graves risques pour la santé. Aujourd'hui, des dizaines de compagnies et au moins 2 parcs industriels opèrent à Haina, où vivent plus de 150 000 habitants, selon des statistiques de 2012. Nous nous préoccupons de la santé des personnes vivant dans le centre, en particulier les personnes détenues, en raison de la pollution et de la chaleur générée par les industries et la raffinerie qui borde le centre, s'inquiète à Aibopos Carlos Sanchez Diaz, du Comité dominicain des droits de l'homme. Le 17 octobre 2024, des centaines de migrants haïtiens retenus au centre de rétention de Haina ont protesté pour dénoncer les conditions de rétention et exiger leur déportation en Haïti. Les autorités ont expliqué que le 17 octobre étant un jour férié, il ne pouvait y avoir de déportation. Des mesures de sécurité ont été adoptées afin de dissuader les retenus et d'empêcher que leurs revendications bruyantes ne déclenchent une situation plus complexe, selon une note de la Direction de la migration dominicaine obtenue par Aibopost. Selon le protocole d'accord signé entre les deux pays en décembre 1999, les autorités dominicaines de migration ne doivent pas réaliser le rapatriement pendant la nuit entre 18h et 8h du matin, les dimanches et les jours fériés. Les autorités dominicaines ne peuvent non plus séparer les familles nucléaires, parents et enfants mineurs, dans le processus de rapatriement. Mais selon Peterson Montpremier, responsable du programme du réseau frontalier Jeune au succès, RFJS, des migrants haïtiens sont déportés la nuit par les autorités. De plus, pour la période allant du 10 au 21 octobre 2024, plus de 500 enfants non accompagnés sont arrivés en provenance de la République dominicaine par les différents points frontaliers, selon le réseau. En vertu de cet accord, les autorités dominicaines de la migration s'engagent à effectuer les rapatriements à destination d'Haïti exclusivement par les postes frontières de Malpas-Jimani, Wanamainte-Dajabón, Belader-Elias Piña et Ansapitre-Pedernales. De son côté, le gouvernement haïtien s'engage à renforcer et à installer des postes d'inspection migratoire à ses points frontaliers pour accueillir les rapatriés. Les autorités haïtiennes se sont engagées également à installer des postes de contrôle migratoire le long de la frontière afin d'éviter le flux illégal de leurs ressortissants vers la République dominicaine. Cependant, cela n'est toujours pas appliqué dans la pratique. De nombreux Haïtiens migrent encore illégalement vers la République dominicaine. Les conditions de déportation sont inhumaines. Aucune institution étatique haïtienne n'est présente dans ces points officiels et les migrants n'ont reçu aucune assistance de la part de ces autorités, déplore le responsable du programme de RFJS. Plusieurs institutions documentent un nombre élevé d'agressions physiques sur des migrants à Haina. Un rapport publié en septembre 2013 par l'Observatorio de Derechos Humanos, en République dominicaine, évoque un incident ayant lieu en août de la même année où le corps sans vie d'un migrant a été retrouvé noyé dans le récif à l'arrière du centre. Des témoins rapportent à l'Observatoire avoir vu des agents de l'immigration frapper à la tête des personnes détenues la veille. L'Observatoire dénonce la non-inclusion de ces cas de bastonnade et de meurtre dans les rapports des autorités sur le centre. Plus de 22 000 personnes sont déjà déportées en Haïti depuis le début des déportations massives annoncées le 2 octobre, selon des statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations. Cette vague de déportations opérée par la migration dominicaine est motivée par la décision du gouvernement de faire face à la situation générée par la pression migratoire massive haïtienne, avait déclaré le représentant permanent dominicain auprès de l'OEA, Radafil Rodriguez. Des responsables haïtiens, comme la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, et le représentant permanent d'Haïti à l'Organisation des États américains, Gandhi Thomas, critique les mesures migratoires de la République dominicaine. À l'initiative du mouvement socialiste dominicain, plus de 500 personnalités dominicaines et internationales ont envoyé une lettre au président Luis Abinader pour demander la cessation des déportations et la réintégration des personnes dénationalisées en 2013 par une cour constitutionnelle dominicaine. Nous continuerons d'exiger de meilleurs traitements pour les migrants haïtiens, conclut l'avocat Carlos Sanchez Diaz à Haibo Post. C'était Haïna, l'enfer des migrants haïtiens en République dominicaine. Un texte de Wetzer Pierre-Saint et Fenel Pélissier, paru le 29 octobre 2024 dans Haïbo Post.
Le Beagle, emblème de Montréal. Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 24 novembre 2024 dans la presse. Depuis quelque temps, une file de plus en plus longue se forme devant un comptoir à bagel sur le plateau Mont-Royal. Je suis chaque fois épaté par l'enthousiasme des touristes prêts à poireauter pour goûter à ce qui me paraît tout à fait exquis, mais somme toute banal. Qu'est-ce qui les amène ici? Le Saint-Viateur Bagel et Café, Mont-Royal, existe depuis 28 ans, mais vit un tout nouveau chapitre depuis 2021. Selon les observations de Benjamin Choquette, gestionnaire des réseaux sociaux de l'entreprise, le Bagel montréalais connaît un engouement sans pareil chez les touristes. Maintenant, les trois choses que les gens veulent essayer quand ils viennent à Montréal, c'est poutine, smoked meat, bagel. On s'entend, les bagels ravissent nos papilles et nous pognent un peu dans le palais depuis longtemps. Leur origine est parsemé de mystères, comme en témoignent les recherches de ma collègue Sylvia Galipo, mais chose certaine, ils font courir les foules depuis des décennies. Comme me l'a fait remarquer Élise Tastet, fondatrice du guide d'adresse gourmande Tastet, Bagel Saint-Viateur et Bagel Fairmount ont des files d'attente depuis leur ouverture, respectivement en 1957 et en 1949 dans le quartier Mile End. Ça fait partie de notre histoire gastronomique et culturelle. Tous les guides et tours gourmands qui sont dans le coin y arrêtent. Or, le chiffre d'affaires du Saint-Viateur Bagel et Café Mont-Royal a doublé entre 2020 et aujourd'hui, selon le copropriétaire José Restrepo. Le phénomène prend donc de l'ampleur. En 4 ans, l'établissement a revu sa formule, passant du service aux tables aux commandes au comptoir, mais il a aussi vu une foule de touristes cogner à sa porte. Environ 60% de sa clientèle est en voyage dans la métropole. Des gens arrivent de l'aéroport et viennent directement manger avant d'aller à l'hôtel. « Regarde, tout le monde a une valise », dit José Restrepo. Effectivement, les clients qui dégustent leur bagel en ce petit matin pluvieux ont tous une valise à leurs pieds. L'image est éloquente. Comment l'expliquer maintenant? Pour Benjamin Choquette, le fait que le café se retrouve sur plusieurs listes de recommandations touristiques pèse pour beaucoup dans la balance. Élise Tastet n'a pas de difficulté à le croire. On a 10 000 lecteurs par jour qui cherchent un endroit pour répondre à leurs besoins. Le grand avantage du bagel est que pour moins de 5 $, tu peux manger un petit déjeuner, un lunch ou un snack. C'est unique et amusant. Les touristes seraient donc attirés vers un mets délicieux, économique et maintenant emblématique de l'identité montréalaise. Chicago a sa pizza deep dish, Philadelphie son cheese steak et Montréal ses bagels. Lorsque des médias comme Condé Nast Traveler et Culture Trip mentionnent les bagels Saint-Viateur Fermente et même les plus récents acteurs du milieu comme Le Trou, comme aliment à manger absolument lors d'un séjour dans la métropole, ça fait son chemin dans la tête des visiteurs, croit Catherine Lefebvre, animatrice de l'émission Balado, On s'appelle et on déjeune. À force de le répéter, les touristes finissent par faire l'association indissoluble entre le bagel et Montréal. À un point tel que le bagel se porte fièrement. Oui, se porte. Des gens entrent dans le café pour acheter des objets promotionnels et non pas des bagels, s'étonne Benjamin Choquette. Au lieu d'acheter un chandail avec un orignal ou une fleur de lys, ils repartent avec un T-shirt Saint-Viateur. Dans l'entrée du café trône d'ailleurs une paire de chaussures d'Enclos Montreal Bagel. Je vous rappelle qu'en janvier 2023, Nike a lancé ce modèle d'espadrille recouvert d'un imprimé de graines de sésame pour rendre hommage à Montréal. Une telle collection renforce le symbole du bagel comme aliment clé de la culture culinaire montréalaise au-delà des foodies qui recherchent cet aliment précis, estime Catherine Lefebvre. Ça rejoint un public bien plus large. Et même s'il ne met pas la main sur ses chaussures, il y a des chances qu'il pense davantage au bagel s'il vient faire un tour à Montréal. Selon José Restrepo, ce qui était d'abord un classique du Myland est aujourd'hui un classique montréalais. Les résidents de la métropole ont adopté le mets et leur attachement rayonnent à travers le monde. Chaque matin, des habitués du quartier viennent chercher leur bagel frais avant de partir au boulot. Ils côtoient alors des gens du Mexique, de la France et de Toronto. Tous sont appelés par un même délice. Et bonne nouvelle, personne ne semble craindre la file grandissante devant le commerce. Ça avance vite de toute façon. C'était « Le bagel, emblème de Montréal », un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.